Bonjour. Le cercle de lecture de Confluence est de nouveau réuni. Autour de la table,
Jean,
Jeannette,
Françoise,
Monique,
Bernard
vous souhaite une bonne année. Nous allons échanger autour du livre de Lydia Georges, Les Mémorables, paru en 2014 et publié aux éditions Métellier en format poche. Donc Lydia Georges est une écrivaine portugaise née en 1946 dans l'Algarve, province dans le sud du Portugal. Elle a fait des études de philologie romane à l'Université de Lisbonne et a été enseignante. Parmi ses œuvres, citons « Le rivage des murmures »,« La couverture du soldat », »,« Nous combattrons l'ombre ». Donc, parlons maintenant du roman. Celui-ci raconte l'élaboration d'un documentaire. L'œuvre se compose de trois parties situées à des moments différents. La première est intitulée « La fable » et a lieu en novembre 2003 près de Washington. Je résume. Ana Maria Machado, qui a quitté le Portugal 5 ans plus tôt et qui travaille comme reporter de guerre pour la chaîne CBS, se voit proposer par l'ex-ambassadeur des USA au Portugal, en 1975, d'effectuer un reportage sur la révolution des œillets, qui a eu lieu le 25 avril 1974 et qui a mis fin à 48 ans de dictature. Fasciné par cette révolution pacifique, l'ex-ambassadeur veut sauvegarder ce moment de grâce, ce miracle portugais, dans un documentaire de 55 minutes. Il demande à Ana Maria de revenir au Portugal et d'en rapporter une narration lumineuse. Oui.
Je vous lis ce court passage. Ce que dit l'ambassadeur. L'histoire n'est pas toujours un cauchemar dont nous essayons en vain de nous réveiller pour revenir au point de départ. Figurez-vous que parfois, encore que rarement, l'histoire est aussi un rêve agréable qui peut s'avérer si apaisant qu'il vaut la peine au réveil d'en garder l'image par tous les moyens afin qu'elle ne s'évanouisse pas.
Alors pour compléter ce que tu dis, Jeannette, il dit aussi « Allez, Miss Machado, allez, et si vous cherchez bien, vous verrez que vous trouverez encore entre les pavés le reste de cette mitraille. Et allez là-bas et rapportez-en quelque chose de valable, quelque chose de propre, une narration lumineuse dans laquelle les gens se revoient. Ils passent leur temps à prétendre le contraire, mais dites-vous bien qu'il y a une chose plus importante que la vérité, c'est la beauté. La beauté est le degré suprême de la vérité, ne l'oubliez pas. » Il me semble qu'on a là une des clés du livre.
Enfin, on le retrouvera dans la dernière partie, cette idée d'alliance entre la beauté et la vérité. Monique, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on l'appelait la révolution des œillets ?
On l'appelle la révolution des œillets parce que les insurgés qui étaient pour cette révolution ont porté à leur boutonnière un œillet rouge qu'ils ont trouvé sur leur chemin lorsqu'ils remontaient une avenue de Lisbonne.
Oui, alors c'est sur leur à leur boutonnière ou au fusil, évidemment. Voilà, oui. La fleur au fusil, c'est toujours, ça parle toujours.
Ouais. Donc cet ambassadeur demande à Ana Maria de revenir au Portugal et d'en rapporter une narration lumineuse, comme vous l'avez dit. Celle-ci n'a aucune envie au départ de revisiter les lieux avec lesquels elle a rompu, mais elle se laisse convaincre de revenir à Lisbonne pour, comme l'a dit Jean, ramasser le reste de la mitraille de fleurs, puisque ce sont les seuls, entre guillemets, projectiles utilisés, la mitraille de fleurs encore coincée dans les pavés. Voilà. La deuxième partie s'intitule « Voyage au cœur de la fable ». Et elle a lieu de février à juin 2004, et essentiellement à Lisbonne. Donc, Ana Maria, la fille prodigue, s'installe chez son père, un journaliste de renom qu'elle a quitté fâchée. Elle ne lui dit rien des raisons de son retour. Et elle retrouve deux amis étudiants avec lesquels elle va réunir des témoignages sur le jour du 25 avril 1974. Contrairement à elle, ces deux jeunes gens ne savent pas grand-chose de la révolution qui a eu lieu 30 ans plus tôt. Alors, je les présente. Margarida Lota, chargée de la documentation et des interviews. Miguel Angelo, chargé du son et de l'image. Quant à elle, elle a préparé les questions à poser et élaborera le scénario final à partir de la documentation rassemblée.
Je voudrais faire remarquer qu'elle ne le fait pas elle-même parce qu'elle estime que son amie est beaucoup plus brillante qu'elle, beaucoup plus d'empathie et beaucoup plus belle, donc elle ouvrira les portes beaucoup plus facilement qu'elle-même ne le peut le faire.
Oui, et peut-être aussi parce que finalement, elle a trop vécu dans ce bain de la Révolution. Elle veut quand même faire, au départ tout du moins, quelque chose d'objectif. Elle le fait avec recul, un peu détaché. Bon, on verra aussi qu'elle évolue au cours de l'histoire.
Oui. Objective, elle se sent certainement pas vraiment pertinente, oui. Puisqu'elle a un compte à régler avec son père, on le verra par la suite. Mais si elle revient à reculons, c'est essentiellement pour ça, quoi.
Oui, tout à fait.
Et le compte à régler qu'elle a avec un des personnages majeurs de la Révolution, bon, oui. Elle sent que...
Oui. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'elle avait peur d'être reconnue comme la fille de ce fameux journaliste. Donc, elle avait peur aussi que l'interrogatoire soit pollué par une préférence, par des relations un peu...
Et c'est la raison pour laquelle elle refuse ce diminutif Machadinha, c'est-à-dire qui rappelle qu'elle est la fille de ce personnage bien connu.
Oui. Donc, à partir d'une photo qu'Anna Maria subtilise à son père et qui a été prise le 21 août 1975, cette photo réunissant les principaux instigateurs et acteurs du coup d'État, ils vont aller, tous les trois, la plupart du temps, interroger donc ces instigateurs et ces acteurs sur le souvenir qu'ils gardent du 24 avril 1975. Oui.
Je voudrais préciser à ceux qui nous écoutent que la photo a été prise plus d'un an après la Révolution. Je me suis demandé pourquoi, mais en fait, le terme de cette révolution ponctuelle et miraculeuse a entraîné des forts débats entre les différentes factions. Et il a fallu plus d'une année pour arriver à mettre d'accord les différentes factions. Et ce jour-là, le jour de la photo, il semble qu'il y ait eu un accord très, très important entre les différentes factions dont les acteurs étaient présents, tellement heureux qu'une photo a été prise ce jour-là.
La photo nous amène sur le terrain qui mêle personnages historiques et personnages romanesques, mais tu vas en parler tout de suite. Mais cette photo est effectivement un élément romanesque.
Oui, c'est de la fiction.
C'est de la fiction.
Et on peut préciser que cette photo est prise dans un restaurant qui s'appelle Mémorise. Je crois que c'est pas un hasard. Il y a une sorte de clin d'œil avec le titre Les Mémorables.
Oui.
Et avec Memories, cet adjectif qui va revenir très souvent.
Memories, c'est les souvenirs aussi.
Voilà.
Hein, c'est la mémoire et les souvenirs. Voilà. Donc, parmi les convives donc, à ce repas de la photo, il y a des personnages réels qui sont tous militaires. D'abord, l'officier de bronze, qui a fait partie du mouvement des forces armées à l'initiative de la Révolution. Ensuite, je donne les noms parce que nous reparlerons d'eux. Le major Umbella, qui a dirigé à l'aube du 25 avril l'occupation de la station Radio Club Portugaise, qui est devenue la voix de la Révolution. Ensuite, Charlie VIII, lui, qui est sur la photo, est mort en 1992, mais le groupe va interviewer sa veuve. C'était un jeune capitaine qui a obtenu le ralliement des militaires non révolutionnaires et la reddition du chef du gouvernement dictatorial. Également, le dernier, El Campeador, capitaine et stratège du mouvement des forces armées révolutionnaires.
Alors, il faut dire que ces titres, El Campeador, etc.,
sont des surnoms.
Ce sont des sobriquets, des surnoms utilisés par la mère de la narratrice qui a commenté la photo par derrière, mais qui correspondent à de vrais personnages historiques dont on peut peut-être donner le nom, enfin au moins le nom du principal, Otelo de Carvalho, qui est le campéador et qui a été le stratège de cette révolution.
Oui, mais il semble aussi qu'au Portugal, il était de règle, peut-être encore aujourd'hui, de donner des surnoms aux personnages.
C'est dans le Midi, c'est quelque chose qui se pratique.
Donc, à côté de ces personnages réels, d'autres sont des personnages fictifs, mais inspirés de participants réels à la Révolution. Tiao Dolores, photographe, qui a pris des clichés des moments décisifs du 25 avril. Ernesto Salamida, qui a diffusé dans la nuit du 24 au 25 avril la chanson que vous allez bientôt entendre et qui servait de déclencheur pour les forces armées révolutionnaires. Et les poètes Ingrid et Francisco Pontais, qui faisaient partie du peuple de Lisbonne, venus assister à la Révolution et qui ont par la suite côtoyé les principaux acteurs de cette Révolution. J'arrive à la troisième partie, qui est le scénario de ce documentaire qu'Anna Maria a seulement rédigé en 2010, c'est-à-dire 4 ans après les interviews, et 6 ans après les interviews, et qu'elle envoie à la chaîne CBS.
Alors, on vous a léché avec une chanson, on va vous la faire écouter. Elle s'appelle Grando la Villa Morena, elle est d'un auteur-compositeur très célèbre au Portugal, Zeco Alfonso, et elle commence par les bruits de pas des soldats.
Grando la Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Vous venez d'entendre donc la version originale de Grândola Vila Morena. Vous pourrez en entendre une version plus fluide, si j'ose dire, parce qu'elle a été reprise et reprise encore par Amalia Rodriguez, qui pourtant était un peu considérée comme l'égérie du temps de Salazar, et par Linda de Souza. Mais l'une des participantes au cercle de lecture nous disait que allant au Portugal peu de temps après la Révolution et ayant demandé à un groupe de musiciens qui se produisait dans un café de jouer cette chanson, a reçu pas un refus, parce qu'ils ont fini par le faire, mais enfin, ils en avaient un peu marre, en quelque sorte, que cette chanson soit toujours considérée comme cet hymne de la Révolution. Et du coup, ça nous amène peut-être à penser à ce titre, Les Mémorables.
Oui, alors, ce livre pose vraiment la question du souvenir, de ce qu'on doit garder d'événements passés. Et ce qui avait dû fasciner sans doute les commanditaires américains, c'est que cette révolution est tout à fait exceptionnelle, puisque c'est une révolution sans effusion de sang, une révolution douce, on pourrait dire. Alors, en ce qui concerne les mémorables, si on regarde le titre, les mémorables, ça peut être les personnes dont on doit garder le souvenir, mais ça peut être aussi les événements dont on doit garder les souvenirs. Ouais. Et ce mot, c'est un mot qui revient très souvent dans le livre.
Oui, c'est vrai. Il revient surtout comme adjectif. Il est employé pour un dîner, une nuit, des objets, un jour, un printemps, un temps, mais aussi des personnages, un défunt, un homme. Et il est employé comme nom, et ça me paraît intéressant. Il est donc, comme on dit, substantivé. Dès les premières lignes du roman, à la troisième ligne, l'ex-ambassadeur avait un costume de soie, et pour étrange que cela paraisse, le chemin qui allait mener au mémorable commença dans le verre de scotch entre ses mains.
Et alors, sur cette histoire de mémorable, je voudrais juste rappeler un peu comment les lecteurs du cercle de lecture de Confluence étaient un peu partagés. Certains d'entre eux, je crois que tu en faisais partie, Bernard, avaient envie que ce livre soit quasiment historique, enfin, retrace vraiment les événements. Et d'autres, puisqu'ils mélangent la vie, la fiction, par la vie de la narratrice et de ses rapports à ses parents, avec la grande histoire, d'autres, au contraire, se sont attachés à ce roman par cet à côté-là. Et vraiment, il y avait les camps étaient partagés. Hein.
Oui, il y avait au moins ces deux avis-là. N'attendez pas du livre, effectivement, qu'il vous raconte les événements. Il suppose connu, ou du moins, il suppose que vous alliez chercher l'information. Il s'adresse à un public qui est déjà suffisamment connaisseur des événements d'avril 1974 pour lire l'histoire de ces personnages et les événements. Je partage ton avis, Jean. Les mémorables, c'est peut-être les événements qui sont mémorables, au moins autant que les personnages eux-mêmes. Donc ça suppose connu, ces événements-là. Alors, effectivement, ce qui m'a un peu gêné, moi, j'ai certaine inclination pour le Portugal et notamment pour ces événements, j'ai eu un peu de mal quand même à m'y retrouver à la lecture des interviews, au moins au début, parce que je ne connaissais pas dans le détail ce qui s'était passé. Je me suis senti un peu perdu. Alors après, ça se structure, et puis il y a la troisième partie dont on va parler tout à l'heure, qui est un peu le rattrapage si on a perdu le fil des événements. Mais ça n'est pas une leçon d'histoire. Non. Pas une leçon d'histoire. Alors, parmi les personnages historiques et les personnages de fiction, il y a aussi un pont entre les personnages qui sont les acteurs d'avril 1974, qu'ils aient existé ou qu'ils soient de fiction, et les trois jeunes journalistes. Puisque, on ne va pas déflorer l'histoire, mais il y a un moment, un lien entre l'un des acteurs, qui est d'ailleurs un personnage de fiction, et l'une des journalistes. Bon.
Je voudrais faire remarquer aussi à propos du titre « Les Mémorables ». Moi, j'ai eu plutôt l'impression que un des projets profonds de Lydia Georges, c'était le devoir qu'on devait apporter à ces événements. Parce que, par exemple, les deux jeunes ne connaissent absolument rien. Donc, il y a pour elle le devoir de se souvenir de ces événements. Et, en fait, tous les événements importants, il semblerait qu'historiquement, soient oubliés très vite au Portugal. N'oublions pas que le reportage est fait 30 ans plus tard. Donc, prenant appui sur ces jeunes qui découvrent en en interrogeant les gens, ils sont surpris de ce qui s'est passé. Donc les mémorables, ça me fait penser à des choses qu'on... par exemple, les couverts jetables qu'on doit jeter. Là, les mémorables, c'est ce qu'on doit, on se doit de se souvenir, aussi bien des événements que des personnages, du rôle des personnages. Voilà comment je conçois le titre de mémorable.
Oui, et d'ailleurs, quand nous avons rencontré Lydia Georges au Marathon des Mots, elle nous avait dit qu'elle voulait transmettre aux jeunes générations qui ignoraient ces événements et ces personnages, et aux plus âgés qui les avaient oubliés, le souvenir, justement, de ces moments cruciaux pour le pays. Et comme tu le dis, je pense que, si tu veux, la découverte qu'elle veut faire aux jeunes générations, surtout, de ce qui s'est passé dans leur pays, est un peu mimée par la découverte que les jeunes reporters, essentiellement Lydia, Margarida et Miguel Angelo, vont faire eux-mêmes.
Nous, on a parlé en France de la génération Hitler connaît pas, et le père de la narratrice, enfin, qui est un journaliste de fiction, s'est insurgé et a donné sa démission à son journal parce que justement, on lui avait mis dans les pattes un jeune reporter qui ne connaissait rien à l'histoire récente.
À propos de ce problème de la transmission, justement, il y a en exergue, il y a la reproduction d'un graffiti sur les murs de Lisbonne. « Excusez-nous de ne pas être dans ces rues, nous ne naîtrons que demain. » Donc, il y a, je crois que le projet de Lydia Georges, là, c'est ni de faire un roman historique, ni de faire un roman documentaire. Mais c'est essentiellement une réflexion sur la transmission.
Oui.
Et sur ce qui reste du filtre de la mémoire.
Oui. Oui,
parce qu'il est dit quelque part que le passé, le temps, rétrécit l'histoire. Donc tous les événements qui ont lieu dans un passé même récent se retrouvent comprimés, effacés, enfin compressés, et n'ont plus l'intensité de l'histoire présente.
Voilà, elle a sûrement voulu retrouver l'intensité, l'exaltation de ces moments exceptionnels.
Oui. Alors, revenons à l'histoire, la vraie. Pour vraiment faire entrer les chars dans Lisbonne, il y avait un indicatif, c'était la fanfare du corps des Royal Marines que nous allons vous faire écouter et qui a été diffusée à minuit 15.
Qui a été diffusée au matin
à la station de radio Club Portugues,
oui.
Au moment où le major Umbella va accompagner de 7 ou 13 investir la radio et en même temps diffuser des messages pour rassurer la population. Donc voilà cette fanfare.
Le premier air de la liberté. Donc, nous allons tenter d'élucider le titre, peut-être, des parties du livre, La fable et Voyage au cœur de la fable. Jean.
Oui, alors, il y a deux parties, on peut constater qu'elles sont totalement inégales. La première, donc, qui s'intitule La fable, est beaucoup plus courte que, après, Voyage au cœur de la fable. Mais la répétition de ce terme est intrigante. On se demande exactement quel est le but de l'auteur en intitulant son chapitre « La fable » alors qu'il s'agit d'un exposé d'événements réels. Mais je crois que c'est vraiment pour ancrer son roman dans une autre dimension, dans la dimension de la recréation littéraire et de la recherche d'une vérité à travers... ce qui peut être considéré comme une belle création. Et puis quand on est au cœur voyage au cœur de la fable, là c'est donc toutes les toute l'enquête que vont faire les trois personnages.
Et quand même, ça va se terminer par un chapitre qui s'appelle Scénario.
Oui.
On va avoir le scénario qu'elle finit par rendre 6 ans après à sa station de radio américaine. Et moi, j'ai été assez frappée par justement le rôle des Américaines dans cette histoire. Je me disais, cet ambassadeur plein de bonnes intentions, puisque quand même, il insiste sur le fait que, alors que le frisé, je me rappelle plus
Kissinger.
Manifestement Kissinger, le poussait à intervenir parce qu'on craignait que ce soit une révolution poussée par la Russie et communiste. Il a attendu et il a bien fait d'attendre puisqu'il n'y a pas eu de fusillade. Mais on a un peu l'impression, c'est l'impression que j'ai eue, qu'il souhaitait quand même que tout cela se termine un peu comme un film hollywoodien, c'est-à-dire happy end. Or, c'est pas tellement le happy end pour les protagonistes, cette révolution des œillets, parce que tous ensuite, et là on va pouvoir justement se demander s'il faut qu'une révolution soit plus radicale et élimine ceux qui ont précédé, tous ont été, je dirais, crossés. C'est-à-dire, on leur a supprimé les retraites. Certains, en particulier Carvalho, a eu un procès. On l'a accusé d'avoir soutenu un mouvement révolutionnaire qui, lui, avait fait des attentats après. Il a été quand même condamné à 15 ans de prison. Enfin, ils ont été vraiment mis hors jeu, on peut dire, ces militaires.
Oui. Je voudrais ajouter quelque chose au concept que tu as présenté sur la fable qui m'avait échappé. Mais je voudrais dire déjà la fable, parce qu'elle va raconter en fait un miracle. On considère que cette révolution est miraculeuse, vu qu'il n'y a pas eu de mort. En plus, chose étonnante, c'est que quand il y avait des ordres donnés par des officiers de devoir tirer, ils ne tiraient pas. On ne sait pas pourquoi, comme s'il y avait une force magique qui les empêchait d'exécuter les ordres. Et puis je voudrais conclure qu'elle a les deux dernières lignes du livre. Elle conclut avant de présenter son scénario. Elle dit « Moi aussi, je suis rentrée dans le cœur du cœur de la fable. » Comme si elle aussi avait pris vraiment conscience de ce que tous ces événements exceptionnels avaient représenté, enfin, comme étant extraordinaires. Cœur du cœur de la fable.
Pour le monde,
et merci Jean d'avoir...
Pour le monde autant que pour le Portugal.
Oui.
Oui. Vas-y,
oui, je voulais revenir juste. On craignait, enfin, les conjurés craignaient l'intervention des États-Unis, mais aussi du puissant voisin espagnol.
Espagnol,
oui. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait deux pouvoirs d'origine fasciste. Il y avait Saint-Lazare, mais il y avait Franco qui n'est mort qu'un an après, qu'en novembre 75.
Hein. Et il y avait un accord entre eux.
Et il y avait un accord, effectivement, entre les deux, de soutien mutuel. Donc il y avait une véritable inquiétude de la part du voisin qui était vraiment aux portes du Portugal, quoi. On l'a un peu oublié, mais...
Si je peux, voilà. Moi, j'aimerais revenir sur la valeur extraordinaire, enfin, l'aspect extraordinaire de ce jour-là, qui me fait penser à une geste, c'est-à-dire, bon, la fable, c'est quelque chose de fabuleux, ce sont des événements qui sortent du commun, et on en a à foison dans le roman.
Oui.
Par exemple, le cuisinier Nunes qui crie dans la rue « Amenez-moi les gars, arrachez-moi la tête du corps et faites-en un boulet ». Tiao Dolores fera un peu la même chose aussi. Le vœu des 5000 soldats qui se jurent de rester des soldats inconnus, c'est-à-dire aucun de nous ne souhaitait qu'on se réfère à des actes individuels ou qu'on en garde le souvenir. Et puis, voilà, ça c'est très beau, le groupe des 5000, tous diraient « ils, eux ».
C'est d'ailleurs un peu déconcertant, parce que lorsqu'on l'entend les interviews, au moins les premiers, on a l'impression que ces acteurs n'ont rien fait, ils se dénigrent quasiment systématiquement, ce sont d'autres où c'est la multitude qui est intervenue, eux n'ont eu qu'un rôle presque mineur dans ce qui s'est passé, quoi.
Oui, comme s'ils avaient une modestie exacerbée, mais du coup qui amène l'un d'entre eux à se trimballer partout avec une sacoche bourrée de documents, parce que justement, peut-être que cette belle humilité qui veut qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse dans les 5000, bah, finit elle par faire qu'on oublie.
Oui. Et donc, parmi les actes valeureux, il y a celui de Charlie VIII, Charlie VIII qui a une grenade prêt à s'immoler dans la poche et qui avance dans son char face à un char ennemi et qui ne bouge plus, qui s'immobilise au risque, bien entendu, d'être tué. Sauf que les forces révolutionnaires, et c'est là le miracle portugais, n'ont pas tiré. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est vrai que ce jour regorge de moments exceptionnels.
Et justement, cette idée de miracle me refait penser à la composition de la photo. La composition de la photo a quelque chose qui ressemble presque à un tableau religieux,
hein,
qui ressemble à une scène. Scène, C-E-N-E. Et on peut même le dire, enfin, sans entrer dans les détails, que sur la table, on va découvrir un agneau.
Une tête d'agneau,
oui.
Dans une terrine.
N'en disons pas plus. Laissons le lecteur découvrir
un petit peu. Oui.
Ce que je voudrais dire justement à propos de futurs éventuels lecteurs, c'est que il ne faut pas qu'ils se laissent, comment dire, un peu effrayé par la densité du livre. Il faut vraiment avoir du temps pour y entrer.
Oui,
c'est vrai, c'est un peu exigeant.
Y compris dans la première partie. Hein, la première partie.
Oui, mais je crois que quelque chose dont nous ne parlerons pas beaucoup, mais qui est important dans le roman, c'est l'évolution des sentiments de la narratrice, Anna Maria, vis-à-vis de son père. Bon, il va se produire dans la vie de son père quelque chose qui va la bouleverser. Et l'ex-ambassadeur donc, aux USA lui avait dit « Allez donc au Portugal pour une dette d'amour qui n'est pas soldée. » Et effectivement, c'est exactement ce qui va se passer.
Mais il faut signaler qu'elle n'a pas voulu interviewer son père, qui savait des tas de choses, parce qu'il aurait pollué les interviews et il aurait donné son avis. Elle voulait que ça soit vierge de tout commentaire, de personnes qui avaient vécu. Surtout les deux jeunes qui interviewaient ne devaient pas être contaminés par un a priori d'idées. Donc elle n'en a jamais parlé à son père.
Oui, mais elle, alors, à travers cette expérience, elle découvre qu'elle est vraiment portugaise, alors qu'elle était partie aux États-Unis, peut-être un peu, comment dire, condescendante vis-à-vis de son pays. Il y a une formule où elle dit « ce petit pays comme une serviette de bain étendue au bord de l'eau ». Donc, le livre raconte aussi comment elle devient véritablement, au fond d'elle-même, portugaise. Où elle retrouve cette âme de son pays.
Et je pense que ce qui est arrivé à son père n'y est pas étranger. Ouais. Mais ça, il faut que les lecteurs le découvrent.
Oui, il faut que le découvrent.
C'est très, à mon avis, le rôle du père est très très important, bien qu'il soit en demi-teinte, mais c'est pour moi le fil conducteur du livre, et c'est peut-être lui qui illustre le mieux le fait que c'est un mémorable, lui aussi, dans sa façon d'être. Mm-hmm. Pas en tant que participant soldat, mais en tant que témoin de ces événements.
Oui, et c'est parce que son père, en fait, lui a dit qu'elle n'était pas capable de restituer l'enchantement qui fut le sien et celui des protagonistes de la Révolution, que Anna Maria, par fidélité filiale, s'attelle à ce devoir de récupérer la mitraille de fleurs que le temps a laissée intacte.
Voilà. Bon, on arrive peut-être au terme de l'émission. On conseille vraiment ce livre parce que si l'histoire n'est pas votre tasse de thé particulière, il y a aussi tout l'aspect psychologique, les rapports parents-enfants et voilà, que vous pourrez apprécier. Je vous proposerai un dernier titre, mais d'abord je vais vous donner quelques avis. Donc à Confluence dans le mois, vous irez sur le site de Confluence, vous aurez les horaires exacts. Maurice Petit va faire une lecture, Jean, dont tu dis qu'elle est très intéressante.
Oui, il va lire des extraits d'un livre d'une écrivaine d'origine algérienne qui s'appelle Kauter Hadimi, et elle raconte l'histoire des éditions Charlot à Alger, des éditions qui ont joué un rôle très très important pour diffuser la culture donc en Algérie.
Et dans la vie de Camus.
Et dans la vie de Camus, bien sûr.
De Camus. Ouais.
Et alors autrement, bien, notre prochain cercle de lecture, auquel je rappelle que vous êtes tous invités, aura lieu à la Petite Comédie le mois prochain, très exactement le lundi 18 février. À 14h30, et que cette fois-ci, on s'est dit, allez, quelque chose de plus facile. On a choisi un roman policier d'Olivier Truc, comme un truc, T-R-U-C, et qui s'appelle Le dernier lapon. Donc, on vous retrouvera, j'espère, à la Petite Comédie et après à la radio. Alors, la musique que nous vous proposons maintenant est une chanson de Victor Jara, qui était un chanteur chilien qui a été martyrisé, je crois que le terme n'est pas trop fort, lors de la révolution du Chili
et le
coup d'État de Pinochet. Il a eu d'abord les doigts écrasés, et ensuite on lui a criblé le corps de 44 balles, 10 parce qu'il était pour l'empêcher de chanter, 10 pour l'empêcher de jouer, enfin, etc., etc. Les quatre dernières étant, paraît-il, celles des États-Unis. Et il nous chante El Arado, ce qui veut dire la charrue.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, que es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma. yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Sur ce champ d'espoir, nous vous disons au revoir et au mois prochain.